Géopolitique.
Chantal Loureau.
Bonjour, bienvenue dans Géopolitique. Oubliée en Syrie, l'euphorie qui avait suivi la chute de Bachar el-Assad le 8 décembre dernier, après 13 ans de guerre civile. Début mars, près de 1500 personnes ont été tuées en quelques jours dans l'ouest du pays. Des violences déclenchées par une attaque de partisans du clan Assad contre les forces de sécurité. S'en sont suivies des représailles aveugles. Un millier de civils, majoritairement alaouites, ont été victimes d'exécutions sommaires. La vidéo des exactions ont choqué les Syriens qui voulaient croire à l'apaisement et à l'unité nationale promis par Ahmed al-Shara, djihadiste repenti d'Al-Qaïda, chef du groupe islamiste sunnite radical HTC, Hayat Tahrir al-Sham, devenu président par intérim de la Syrie. Alors la transition est-elle menacée? Faut-il craindre un nouvel embrasement du pays? Ahmed al-Shara est-il capable de cimenter une Syrie ruinée, morcelée en communauté? Saura-t-il contrôler les plus radicaux de ses partisans et calmer la soif de revanche des loyalistes pro-Assad? Le mouvement HTC au pouvoir depuis 3 mois s'est-il vraiment déradicalisé ou est-ce une stratégie pour séduire les Occidentaux? Quelle place la Syrie veut-elle occuper sur l'échiquier régional et quelle est sa politique vis-à-vis des grandes puissances? Faut-il plus que jamais soutenir la transition en Syrie ou rester circonspect? On en débat avec nos invités. Hala Khonmani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes franco-syrienne, grand reporter au journal Libération, et vous avez publié en 2017 Seul dans Raqqa aux éditions Équateur. Ariad Ranem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur franco-syrien, docteur en relations internationales et enseignant à Sciences Po Paris et spécialiste des Alaouites. En ligne de Beyrouth, Anthony Samrani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-rédacteur en chef du quotidien libanais L'Orient le Jour et vous avez publié dans la collection Tract de Gallimard, Vue du Liban, la fin d'un pays, la fin d'un monde. Point d'interrogation. Alors en décembre, il n'y a pas eu d'effusion de sang quand la coalition rebelle conduite par le groupe HTC a fait tomber le régime de Bachar el-Assad. Qu'est-ce qui s'est passé, Ariad Ranem, pour que des affrontements aussi meurtriers éclatent au bout de 3 mois à Latakié et Tartous, fief de la minorité alaouite dont est issu le clan Assad?
Alors, il s'est passé, je pense, 2 choses simultanées. C'est-à-dire que d'un côté, il y a eu effectivement le réveil d'anciens acteurs du régime des Assad. On a parlé d'anciens membres du 4e régiment de l'armée, qui était le redoutable régiment dirigé longtemps par Maher al-Assad, le frère de Bachar. On a parlé de la garde républicaine. Il faut comprendre ici qu'il s'agit de groupes dont le principal rôle dans le régime précédent était de protéger les trafics de drogue, protéger le clan Assad.
Donc et la production de captagon notamment.
Donc il y a eu un piège tendu par ces factions contre les forces de sécurité le 6 mars, et à partir de là, une attaque plus généralisée, dont a fait partie aussi des factions islamistes très radicales affiliées au nouveau pouvoir, qui ont commis des massacres. Ça, c'est la première chose, mais je voulais aussi insister sur le fait que s'il n'y avait pas eu d'effusion de sang jusqu'à maintenant, jusqu'à la semaine du 3 mars, il y avait eu quand même un état de violence qui était assez important, et déjà, des Alaouites avaient été tués, et d'autres membres d'autres minorités, autour de Homs principalement, et même dans la région de Latakié. Par exemple, dans la nuit du 3 au 4 mars, dans le quartier de Daatour, qui est au nord de Latakié, il y avait eu des bombardements indiscriminés. Et ça montre ici l'ambiguïté et le problème qui peut être lié parfois à la recherche des criminels du régime des Assad, avec tous les abus et les débordements, et malheureusement, depuis quelques semaines, les massacres qui peuvent aller avec.
Hala Khonmani, vous la sentiez fragile, cette transition? Est-ce que vous avez été surprise par cette explosion de violences meurtrières dans le nord-ouest du...
Il faut dire que jusque-là, depuis le 8 décembre, c'est-à-dire le jour du renversement du régime, c'était presque trop beau pour être vrai, la situation en Syrie. Il y a eu un renversement pratiquement sans victimes. Ça a pris une rapidité formidable. Il y a eu tout d'un coup un enthousiasme généralisé. Les premières semaines, alors qu'on pouvait craindre justement ces anciens djihadistes, ils semblaient plutôt raisonnables, ça se passait bien. Ils avaient l'air très conscients des enjeux, rassurés justement tout le monde, toutes les communautés, toute la population. Bon, c'est vrai que c'était un peu, encore une fois, trop beau pour être vrai, compte tenu des problèmes colossaux qui sont ceux du pays. On a d'abord une situation sécuritaire assez grave, avec des défis de tous les côtés. On a vu les Israéliens intervenir.
On va y revenir tout à l'heure.
En quelques jours. Il y a une situation économique complètement, un pays dévasté. Ruiné. Donc des populations très, très fatiguées, usées et qui ne savent pas trop à quel sens. Ouais, plus ce pouvoir, en effet, qui a des débordements. Là, ils se sont tenus tranquilles en quelque sorte, ils ont été sages et maintenus un certain temps, mais il est clair qu'il y a eu d'autres factions qui se sont ralliées, là, qui ont commis les pires massacres la semaine dernière. Et c'est sûr que c'était, je dirais pas prévisible, mais c'était à craindre et c'est un peu, malheureusement, un scénario qui était attendu.
Anthony Samrani, vous vivez à Beyrouth. Comment on a vécu côté libanais cette explosion de violence meurtrière dans le nord-ouest de la Syrie qui a provoqué un exode de près de 13 000 Syriens vers le nord du Liban?
On l'a vécu avec beaucoup de crainte, je pense, beaucoup d'angoisse. Non seulement parce qu'une partie des Libanais, et là je pense plutôt à certaines minorités chrétiennes ou chiites, ont le sentiment que le nouveau pouvoir peut être une menace à terme pour le Liban, parce qu'il y a eu la crainte aussi que l'afflux de réfugiés fasse de la scène libanaise dans laquelle il y a des Alaouites, il y a des Sunnites, et que ces tensions explosent également au Liban, et parce que les relations, malheureusement jusqu'à maintenant, entre le Liban officiel et la Nouvelle-Syrie ne sont pas très bonnes, alors qu'on espérait qu'une nouvelle page s'ouvre. Il y a beaucoup de méfiance des deux côtés. Et le fait que le Hezbollah, vous l'avez sans doute suivi, continue de participer à des combats, en tout cas les clans chiites qui sont proches du Hezbollah continuent de participer à des combats à la frontière libano-syrienne avec des soldats syriens qui ont été kidnappés et amenés côté libanais il y a quelques jours. Il y a une crainte plus générale à long terme d'un conflit possible entre les deux pays. Donc on est dans une situation vraiment très instable et je crois que de façon générale, il faut vraiment comprendre que le destin du Liban dépend intimement de celui de la Syrie.
Quel est le pouvoir de nuisance des pro-Assad aujourd'hui, Riyad Ranem? Est-ce qu'ils sont encore nombreux? Parce que j'imagine qu'ils n'ont pas tous pris le chemin de l'exil. Est-ce qu'ils ont commencé à s'organiser au bout de, bah justement, au bout de 2 mois ou 3 mois?
Il y a plusieurs choses qu'il faut rappeler ici. Comme disait Hala, au début, il y a eu ce moment de grâce des premiers jours. Beaucoup de personnes et des membres intimes de l'ancien régime ont quitté le pays à ce moment-là. Et d'ailleurs, là, c'est un peu une impasse pour le nouveau pouvoir parce qu'il y a un désir de justice et de comptabilité des criminels des Assad, mais beaucoup d'entre eux ont quitté le pays. Ça, c'est une première chose.
Et les Assad, on rappelle, la famille Assad est partie en Russie.
Oui, une bonne partie d'entre elles se trouve en Russie actuellement.
Mais on ne sait pas où se trouve Maher, vous confirmez, Hala?
Je sais pas. On dit qu'il est en Irak, mais on ne sait pas trop.
Pas plus d'informations non plus. Mais ce que moi, j'avais observé sur le terrain la dernière fois que je m'étais rendu en Syrie et sur la côte syrienne à l'été 2023, c'est qu'en revanche, le peu d'assises populaires qu'avait ce régime avait complètement disparu. Plus personne n'en voulait, à force d'avoir envoyé des jeunes à la guerre pour rien, des milliers d'Alaouites qui étaient morts, à force de prédation, à force de précarité. Il y avait un ressentiment très fort contre le Assad qui était une ressource pour le nouveau pouvoir parce qu'on aurait pu générer de l'inclusion et de la conciliation, y compris avec les Alaouites. Donc pour moi, c'est plus un pouvoir de nuisance qui est localisé. Je vous disais, c'est des factions dont le rôle principal est de protéger la drogue. Et moi, je fais beaucoup plus le lien entre leur réveil en Syrie ces derniers jours et les guerres à la frontière syro-libanaise avec les trafiquants de drogue notamment, que c'est plus ça pour moi qu'une guerre politique pour reprendre le pouvoir contre Al-Shala. Mais ce qui est dommage, c'est que les Alaouites, en grande majorité, étaient très disponibles pour la transition au début. Aujourd'hui, il y a une défiance très importante, et pas que les Alaouites d'ailleurs, d'autres populations, et pas que les minorités en plus.
Selon des témoignages, des djihadistes étrangers faisaient partie des combattants qui ont commis des exactions donc, contre les civils, c'est plausible?
Oui, c'est tout à fait plausible, puisqu'il y avait eu une sorte de pacte au début entre Al-Sharaa, HTC et les factions djihadistes étrangères qui disaient « on va vous embarquer dans la prise de pouvoir, mais vous allez vous tenir tranquille ». Aujourd'hui, c'est évident qu'il y a eu un jeu d'ambiguïté avec l'usage par le nouveau pouvoir de ces poches de radicalité, notamment autour de Homs jusqu'à maintenant. Et maintenant, on en voit les débordements et voilà, l'insécurité et les violences que ça peut générer.
On l'a dit, le président par intérim, Ahmad al-Shara, doit sa victoire à de nombreuses factions, parce que les 30 000 hommes qui ont marché avec lui sur Damas attendent peut-être quelque chose aujourd'hui, Hala Khodmani.
Tout son problème est là, c'est qu'il compte vraiment sur un très, très petit nombre de combattants réellement disciplinés, oui, disciplinés, organisés, qui obéissent à ses ordres. Le pays est plein de sa fin. Après 14 ans de guerre civile, où il y a eu je ne sais combien de groupes armés partout, il y a des groupes armés partout. Les armes sont partout. Et donc, le fait de ne pouvoir compter que sur un petit nombre de fidèles et de ne pas s'ouvrir, il n'a pas essayé. Il reste très méfiant. Il y a un côté paranoïaque de « je ne veux pas associer, par exemple, les anciens groupes de l'armée syrienne libre qui sont un peu partout dans le pays et qui, a priori, sont favorables, ne vont pas menacer son pouvoir. » Et là, il est un peu en train de payer ce prix-là. C'est qu'à force de vouloir compter sur un tout petit nombre, qui est nettement insuffisant, pour maintenir la sécurité à travers le pays et surtout pour empêcher les plus extrémistes, qui ne sont pas les djihadistes étrangers les plus acharnés d'ailleurs. Hein. Si on a, oui, il y a un certain nombre de Ouïghours, par exemple, chinois, musulmans, qui sont en Syrie depuis des dizaines d'années parmi les forces djihadistes, ce n'est pas ceux qui se comportent le plus mal, hein. Eux ou des Tchétchènes ou autres, mais... Je crois que les pires atrocités qui ont été commises, ça a été des factions complètement syriennes. Hein.
Mais les nouvelles autorités avaient lancé un appel aux milices pour qu'elles déposent les armes. Certains miliciens les ont déposées en échange d'une sorte de sauf-conduit, si j'ai bien compris. Oui. Mais cet appel a été insuffisamment suivi, Hala ?
Ah oui, bien sûr. Compte tenu de combien il y a d'armes auprès de tant de gens... Tout le monde n'a pas avancé. Et puis, c'était rendre les armes, oui, pour intégrer l'armée. Et donc, bon, le marché, ça ne pouvait pas se faire en quelques jours ni en quelques semaines, cette opération. C'est énorme. On est en train de parler de dizaines de milliers de combattants de tous bords, de toute région, de toute obédience. Donc bon, c'est un processus, bien sûr, qu'il fallait le faire. Et c'était très intéressant. Et ça avait bien commencé. Mais il y a un côté course contre la montre, hein. Là, il y a eu une course contre la montre au départ pour essayer de contenir un petit peu et de mettre le pays sur pied. Bon, là, tout d'un coup, ça n'a pas suffi. Ça a été trop vite. Enfin, les violences sont parties plus vite que l'ordre.
Anthony Samrani, une commission d'enquête indépendante mandatée par la présidence syrienne est chargée de faire la lumière sur ce qui s'est passé dans l'ouest du pays, donc début mars, d'identifier les responsables présumés des atrocités commises. C'est à l'aune de ce rapport qu'on pourra juger de la réelle volonté du pouvoir de laisser la justice travailler en toute indépendance ?
C'est un test très important et je pense qu'il faut quand même reconnaître dans la séquence quel a été le comportement d'Ahmad al-Sharia, qui est quand même intervenu à plusieurs reprises. À quel point c'était sincère ou pas, on peut se poser des questions, mais pour dire qu'il fallait arrêter les exactions contre les Alaouites, et qui a ensuite reconnu qu'une partie des gens avaient fait ça. Enfin, si une même scène s'était passée sous Bachar el-Assad, ça aurait été d'une part un déni complet et d'autre part un appel au meurtre beaucoup plus massif. Donc on a encore, je crois, le droit d'espérer. Vous parliez au début, est-ce que l'on peut espérer ou est-ce que c'est terminé ? Ou est-ce qu'il faut être sceptique, pardon ? Je crois que c'est les deux. Il faut continuer d'espérer parce que si on n'espère pas, il n'y a aucune chance que ça aboutisse. Et en même temps, il faut rester très sceptique. Moi, j'étais à Damas il y a quelques jours. J'en suis revenu quand même très, très inquiet. Le pouvoir est extrêmement fragile. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, le président est à la fois le seul qui peut éviter qu'une nouvelle guerre civile éclate en Syrie. Et en même temps, du fait de sa politique, du fait de son environnement, de ses proches, de ce qu'il incarne, il pourrait être la principale raison pour laquelle cette guerre civile pourrait éclater. Hala parlait de l'urgence. Je crois que c'est là que les diplomates, notamment occidentaux, doivent comprendre que je sors là à l'instant d'une réunion justement avec des diplomates qui me disaient « on est encore dans une situation de wait and see ». Donc attendons de voir ce que va faire le régime, attendons de voir comment il va se comporter avec les minorités pour l'aider, pour l'accompagner ou non, ou pour au contraire... pour lever les sanctions ou pour au contraire les maintenir. Mais le pays étant ruiné, le pays étant morcelé, si aujourd'hui il n'y a pas un accompagnement fort, si aujourd'hui il n'y a pas des milliards qui arrivent vite en Syrie, avec bien sûr des mécanismes de contrôle, des possibilités de remettre des sanctions, etc., il n'y a aucune chance que soit ce pouvoir reste en place, soit que le pays ne tombe pas dans une nouvelle forme de violence, guerre ou tension très forte entre les différentes communautés. Sans parler, et on y reviendra probablement plus tard, des deux ombres géopolitiques turques et israéliennes qui compliquent encore plus la donne.
Alors la question peut paraître peut-être anecdotique, mais Ariad Ranem, vous pensez que les militants qui constituent toujours la base de HTC sont d'accord avec à la fois la volonté d'ouverture affichée par Ahmad al-Shara et sa transformation de chef de guerre islamiste en treillis en président habillé à l'occidental en costume cravate?
Je pense que c'est un peu ce que disait Hala tout à l'heure, c'est tout le dilemme aujourd'hui pour Ahmad al-Shara, c'est de se situer entre une nécessaire inclusion du maximum de composantes de la société syrienne dans toute sa géographie, dans toute sa diversité, et au contraire une tentation du repli de l'autre côté pour satisfaire une certaine base parmi ses soutiens qui témoigne d'une forme de radicalité, qu'elle soit idéologique, voire parfois par l'usage de mécanismes très violents. Pour l'instant, il montre un coup d'un côté, un coup de l'autre. Beaucoup de discours de conciliation, peu d'actes ces derniers mois qui vont vraiment dans ce sens-là, alors que c'est ultra nécessaire à ce moment précis d'inclure le maximum en fait de membres de la société civile, y compris dans toutes les localités. Jusqu'à maintenant, Ahmad al-Shara, il a montré quand même, d'une part, un surinvestissement de l'international par rapport à l'échelle nationale, donc il a reçu les délégations et envoyé le ministre des Affaires étrangères Shibani partout pour essayer de lever les sanctions, ce qu'il a obtenu très partiellement, mais beaucoup sur le terrain, et toute communauté confondue commence à se dire « oui, mais parlez-nous aussi, il faut qu'on soit inclus, nous », ça c'est une première chose. Et l'autre chose, c'est cette géographie sécuritaire que Shara commence à mettre en place. On voit qu'il ne traite pas toutes les villes de la même façon, il ne traite pas toutes les régions de la même façon. Dans certaines villes, il fait confiance aux élites locales et aux populations locales pour presque s'autogérer. Dans d'autres, il envoie des factions très radicales pour maintenir l'ordre de façon assez brutale. Donc ça montre bien quand même que jusqu'à maintenant, bien sûr que c'est allé très vite et qu'au bout de 3 mois, on ne s'attendait pas à un changement du tout au tout, mais il faut vraiment aller plus vers l'inclusion et moins vers ces logiques de tension et de clivage sur lesquelles il essaye de jouer.
Vous êtes d'accord, Hala, la volonté affichée d'inclusion peut-être relève plus de l'affichage que de la réelle conviction ?
Je ne peux pas savoir
ce qu'il y a dans la tête,
ce qu'il y a dans le cœur ou dans la tête, mais il est obligé, quelque part, aussi bien vis-à-vis de l'international que vis-à-vis des Syriens, de tenir un discours de l'inclusivité, d'aller voir, bon. Mais ça, c'est vrai que ça se traduit souvent par des gestes très symboliques, genre on fait une grande réunion avec les représentants de toutes les églises chrétiennes, avec toutes les soutanes et les chapeaux possibles et imaginables. Mais c'est un travail de fond, ça. C'est pas une décision présidentielle, quelle que soit, d'un chef d'État qui dit maintenant, allez, on va être tous des Syriens égaux, on va s'aimer, tout va bien se passer. On a eu pendant des années un régime qui a vraiment instrumentalisé les luttes confessionnelles, les luttes communautaires, que ce soit dans sa propre communauté ou auprès de d'autres minorités. Et donc, on ne guérit pas de ça toute la société d'un jour à l'autre. Bien sûr qu'il aurait pu en faire plus, mais ce qui est plus grave, ce que je disais, c'est que ce n'est pas simplement d'en haut que ça doit venir. Il faut vraiment que ça parte de la société syrienne et des forces vives de la société ou des différentes communautés. Les débordements, et il y en a, des débordements individuels complètement barbares, y compris à Damas. Des gens, bon, les chrétiens, il n'y a pas à célébrer un martyr chrétien, il n'y a pas. Enfin, bien sûr, il y a des extrémistes, des civils extrémistes, j'allais dire. C'est pas besoin d'être djihadiste ou d'avoir porté des armes ou des ceintures de kamikazes.
Hala Kodmani, Anthony Samrani, Ariad Ranem, on fait une pause le temps d'un nouveau journal sur RFI et on se retrouve dans 10 minutes pour continuer à débattre de la transition compliquée.
Géopolitique, Chantal Leroux.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie de Géopolitique. Depuis le massacre début mars d'un millier de civils alaouites à l'ouest de la Syrie, le spectre d'un nouvel embrasement du pays a ressurgi. Le président par intérim, l'islamiste Ahmed al-Shara, qui prône l'unité, le dialogue et la réconciliation nationale, a-t-il toutes les cartes en main pour atteindre ses objectifs? On continue d'en débattre avec trois spécialistes de la région, les journalistes Hala Kodmani et Anthony Samrani, et le chercheur Ariad Ranem. Anthony Samrani, depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, l'une des grandes questions porte sur l'avenir de la région autonome mise en place par les autorités kurdes syriennes. Le 10 mars, le président Ahmed al-Shara a signé un accord avec Mazloum Abdi, le chef des FDS, les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes. Selon cet accord, toutes les institutions civiles et militaires qui relèvent de l'administration autonome kurde du nord et de l'est de la Syrie vont être intégrées à l'État syrien. Est-ce que c'est un accord, selon vous, gagnant-gagnant pour les Kurdes syriens et pour le président par intérim?
C'est un accord très fragile et on espère bien entendu qu'il va pouvoir survivre aux différents intempéries politiques sur la scène syrienne. Mais il est très important, à mon avis, pour trois raisons. Le premier, c'est le timing. L'annonce de l'accord est survenue juste après les tueries de masse sur la côte syrienne. Donc ça a permis politiquement de montrer que Sharia était prêt à tendre la main, notamment à des minorités, et là, en l'occurrence, aux Kurdes. Le deuxième, c'est que c'est la première fois depuis l'effondrement de l'Empire ottoman, depuis que la question kurde se pose, que peut-être avec le discours historique d'Öcalan, le fondateur du PKK, qui a annoncé que le mouvement allait déposer ses armes, puis avec cet accord, peut-être une possibilité d'inclusion plus forte d'une partie des Kurdes en Turquie et en Syrie, ce qui est tout de même très important. Et la troisième raison, c'est que les Américains ont été quand même le principal moteur de cet accord. Ils ont énormément poussé afin qu'il soit signé. Et cela démontre une volonté américaine de renforcer le pouvoir de Damas et d'éviter l'implosion, alors même que son principal allié dans la région, c'est-à-dire Israël, joue, lui, au contraire, sur la division interconfessionnelle, que ce soit dans le sud avec les Druzes ou que ce soit à l'est et au nord avec les Kurdes. Donc pour ces trois raisons, je pense que c'était un moment très important. Cela dit, lorsque Ahmed el-Sharia a présenté la déclaration constitutionnelle il y a quelques jours, les Kurdes ont été très critiques vis-à-vis de sa nouvelle vision du pouvoir, on va dire. Donc il est possible que l'accord ne tienne pas, malheureusement.
Hala Kodmani, la déclaration constitutionnelle signée il y a quelques semaines ouvre-t-elle une nouvelle page pour la Syrie, comme l'a déclaré Ahmed al-Shara, ou est-ce qu'elle vous laisse dubitative?
Bien sûr, elle est décevante quand on attendait beaucoup plus. Bon, ce qui est...
Qu'est-ce qui change par rapport à l'ancienne constitution, dans le sens positif des choses?
Dans le sens positif, moi je retiens, le domaine qui me concerne le plus, c'est les libertés. Toutes les libertés d'expression, de réunion, de presse, etc. soient bien mentionnées comme un article de la Constitution, c'est un progrès et c'est essentiel. Maintenant, évidemment, il y a plein de faiblesses dans cette... Et d'abord dans sa forme même. Il y a des points inutiles pour une déclaration constitutionnelle qui a été faite très rapidement pour rester provisoire. Ils auraient pu faire un petit peu l'économie de quelques formules inutiles, tout en insistant au contraire sur des choses plus essentielles.
Par exemple, sur l'avenir des minorités.
Mais je crois là, c'est très bien mentionné que égalité totale de tous les citoyens syriens, quelle que soit leur origine religieuse, ethnique, leur appartenance, leur région, etc. Non, ça c'est très bien formulé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Non, ce qui est plus inquiétant, c'est le côté concentration du pouvoir du président.
Qui s'appuie sur ses fidèles.
Pas seulement qui s'appuie sur ses fidèles, qui s'accorde des prérogatives.
Oui, parce que c'est assez étendu. Un régime présidentiel fort.
C'est de l'autoritarisme clair et net. On voit tout de suite, côté autoritaire, qu'on soupçonnait, qu'on savait chez Ahmed Shara. Mais c'est très affirmé, y compris dans cette constitution provisoire. Il veut choisir le tiers des membres d'une assemblée représentative. Une ambiguïté sur est-ce qu'il y aura un premier ministre ou pas, parce qu'il voudrait que ce soit lui direct qui est le chef du gouvernement en même temps. Bon, Là, c'est le côté autoritarisme qui ressort surtout dans cette intention de constitution qui, encore une fois... Bon, évidemment, beaucoup de Syriens sont déçus aussi de la période provisoire de 5 ans.
Oui.
Bien sûr que c'est long.
Mais en même temps, est-ce
mais
que
quelque
le...
part, est-ce que...
Est-ce que le pays est en voilà. état d'organiser des
est-ce
élections
que c'est pas, est-ce que c'est pas aussi réaliste
aujourd'hui.
Parce que, compte tenu simplement de la population déplacée partout, de la moitié de la population syrienne qui n'est plus là où elle devait être... Rien que ça, pour faire des listes électorales, c'est une galère.
Ariad Ghanem, quel gage le nouveau pouvoir doit-il donner à la communauté internationale s'il veut obtenir la levée des sanctions économiques qui empêchent la reconstruction du pays, qui est pourtant l'un de ses principaux défis ?
Déjà, c'est vrai que Ahmed Eshala se trouve dans cette situation aujourd'hui où la Syrie est toujours aussi isolée, économiquement, d'un point de vue politique, d'un point de vue monétaire. Par exemple, une source diplomatique me disait qu'il y a dans le marché syrien seulement 20% de la livre syrienne, le reste ayant disparu avec les anciens du régime Assad, quelque part entre la Russie, le reste du Moyen-Orient. C'est les Russes qui ont gardé les plaques pour imprimer la monnaie. Donc entre les sanctions américaines qui sont toujours très lourdes, d'autres sanctions, les leviers de la Russie, c'est sûr qu'il y a vraiment un sujet ici qui est très important. Je pense que parmi les messages à envoyer, il y a encore et toujours ce sujet d'inclusion. Ahmed le disait très bien, et là on voit encore cet usage stratégique de la contradiction par Al-Shala. La constitution garantit la séparation des pouvoirs, mais il nomme le tiers du pouvoir législatif à travers l'Assemblée du peuple et les deux autres tiers à travers un comité qu'il a lui-même nommé. Le Conseil des juges constitutionnels est nommé par lui également. Donc il y a une volonté d'expression politique dans la société syrienne quand même qui est très importante, y compris sur le registre de la contestation, des clivages, des différentes idées, des idéologies en Syrie et à l'extérieur. Et je pense que ça, c'est vraiment hyper important qu'on ait les gages justement d'un champ politique plus inclusif à même de représenter la diversité de la population syrienne et qu'on sache un peu où on va dans ces 5 prochaines années. Est-ce qu'on aura un moment un gouvernement ou non ? Est-ce que ce gouvernement sera réellement inclusif ? Là, à ce stade, c'est pas juste aux Occidentaux et à la communauté internationale qu'il faut montrer des gages, c'est vraiment à toutes les composantes de la société syrienne aussi.
Vous avez mentionné la Russie. Anthony Samrani, la chute de Bachar el-Assad a été un revers pour Moscou, qui était avec l'Iran le principal soutien du dictateur syrien. Quelles sont les relations du nouveau pouvoir à Damas avec Moscou aujourd'hui ? Est-ce que la Russie a pu garder ses bases militaires en Syrie ?
Elles ne sont pas si mauvaises et oui, il y a une grande possibilité que les Russes gardent leurs bases militaires. Pour deux raisons, c'est parce que le président a besoin d'alliés et il est déçu et des gens dans son entourage m'ont confirmé qu'il était déçu de l'attitude des Occidentaux. Il pensait avoir beaucoup plus de soutien de leur part et il se tourne aujourd'hui vers les Russes qui lui ont offert notamment un soutien financier, même si c'est plus de l'ordre du symbolique. Et la deuxième raison, c'est que les Israéliens poussent énormément, eux aussi, pour un retour des Russes. Pourquoi ? Pour la simple raison qu'ils ne veulent pas voir les Turcs, la Turquie, l'une des puissances militaires les plus importantes de la région, ils ne veulent pas la voir établir des bases en Syrie et potentiellement se retrouver à quelques kilomètres de leurs frontières.
Mais alors Israël, depuis le 8 décembre, a lancé des centaines de frappes en Syrie sur des sites militaires pour empêcher que l'armement de l'ancien régime ne tombe aux mains du HTC. L'armée israélienne est même entrée en Syrie, elle occupe la zone tampon du sud de la Syrie à la frontière du Golan, annexée par l'État hébreu en 1981. Et Damas n'a pas l'air de réagir. Pourquoi, Hala Khodmani ?
Parce qu'elle n'a pas les moyens de réagir. Tout simplement. Je crois que 2 jours après avoir pris Damas, le nouveau pouvoir a pratiquement envoyé un message rassurant aux Israéliens en leur disant « Vous n'êtes pas notre priorité et pour l'instant, on ne vous veut aucun mal ». Et ça a été très mal récompensé. Enfin, il y a eu un très mauvais retour puisque les Israéliens aussitôt sont intervenus pour occuper une partie de la frontière du Golan et au-delà, qu'ils n'arrêtent pas. Alors avant, ils menaient des raids évidemment contre les forces iraniennes et les armes qui passaient et tout ça. Maintenant, je ne vois aucun homme armé au sud de Damas.
Et ils ont même confirmé qu'ils avaient construit au moins 9 postes militaires dans cette zone tampon.
On a une comparaison un peu en plus maintenant avec cette ce jeu avec les druzes, à les diviser, à essayer d'en acheter quelques-uns.
Oui, ils ont invité des chefs traditionnels druzes.
Oui, des chefs religieux, des chefs religieux qui se prêtent à un jeu assez bizarre, ce qui divise les druzes entre eux d'ailleurs, hein, énormément. Mais ça rappelle une époque libanaise où ils avaient pris une bande frontalière au sud Liban avec des supplétifs qui s'appelaient l'armée du Liban Sud, et ça a duré pendant une douzaine d'années, et ça a fini par une autre guerre contre le Hezbollah. Ça... Donc là, les Israéliens, de toute façon, ils sont lâchés de toutes parts. Hein. Enfin, ils sont lâchés.
On leur a lâché la bride.
On leur a lâché la bride de tous les côtés. Ils sont absolument, ils jouissent d'une impunité totale. Je crois qu'il n'y a pas eu de protestation, même diplomatique, même de principe. Bonsoir, la Syrie, c'est quand même un pays souverain avec des frontières reconnues. Voilà, on n'a pas vraiment protesté pour dire mais qu'est-ce que vous venez faire au-delà de la ligne de démarcation internationale.
Anthony Samrani, comment vous voyez-vous du côté libanais ce qui se passe dans cette zone tampon au sud de la Syrie, occupée maintenant par l'armée israélienne ? Ça vous rappelle aussi de très mauvais souvenirs ?
Oui, bien sûr. Déjà, le projet israélien en Syrie n'est pas très clair jusqu'à maintenant. Est-ce que l'objectif ultime des Israéliens, c'est de signer un accord de paix avec un régime syrien très affaibli dans lequel la Turquie jouerait un rôle très faible ? Ça, c'est la première option. Ou est-ce que la priorité, c'est plutôt le morcellement de la Syrie, ce qui serait la seconde option ? Tout porte à croire pour l'instant qu'en tout cas, ils agissent beaucoup plus en faveur de la seconde que de la première option. Mais il y a quelque chose qui s'est dessiné depuis quelques mois et qui dépasse la Syrie et qu'on ressent nous aussi au Liban. Il y a une nouvelle forme d'hégémonie dans la région, qui est une hégémonie israélienne, qui est une hégémonie militaire peut-être plus que politique. Mais les Israéliens sont dans une forme d'hubris où ils ont le sentiment qu'ils peuvent taper partout et que le rapport de force est tellement en leur faveur qu'ils peuvent imposer des règles, des nouvelles lois, des changements de territoire, des changements de frontières à tous leurs voisins sans que cela ne leur coûte rien sur le plan diplomatique.
Mais c'est aussi le silence dans les pays arabes par rapport à ce qui se passe dans le sud de la Syrie.
Parce que les pays arabes ont un grand, grand problème en ce moment, comme les Européens, un grand problème qui s'appelle Donald Trump. Les pays arabes dont toute la sécurité, je parle essentiellement des pays du Golfe, là l'Arabie Saoudite en tête, puisque c'est le seul acteur aujourd'hui important qui pourrait jouer un rôle. Mais lorsque vous avez un président américain qui pousse à ce point-là pour un accord entre l'Arabie Saoudite et Israël, qui pousse à ce point-là pour qu'un nettoyage ethnique dans la bande de Gaza, l'Arabie Saoudite est vraiment sur la réserve, parce qu'elle ne peut pas s'opposer frontalement aux États-Unis, ça lui coûterait trop cher, et en même temps, elle ne peut pas accepter toutes les demandes de son allié historique.
Et c'est en Arabie Saoudite que le nouveau leader syrien a effectué sa première visite à l'étranger. Ahmed al-Sharaa a été reçu par le prince Mohamed Ben Salman, MBS, le 3 février. Qu'est-ce qu'il a obtenu de MBS à Riyad Ghanem ?
Alors, effectivement, Ahmed al-Sharaa a fait cette tournée, sa première visite officielle était en Arabie Saoudite. Il s'est rendu ensuite, quelques semaines plus tard, en Jordanie. Et à chaque fois, je pense qu'il a obtenu des gages et des soutiens, et notamment des promesses de soutien financier pour une économie qui est complètement à l'arrêt, des fonctionnaires qu'on n'arrive plus à payer, les sanctions qui sont toujours très lourdes. Mais il a sûrement dû aussi lui-même donner des gages en retour, et notamment en ce qui concerne un problème de santé publique majeur pour la région, et notamment pour le Golfe, qui est le Captagon et les trafics de drogue. Et à mon avis, il n'est pas très étonnant que le durcissement de sa politique vis-à-vis de ces trafics soit un peu concomitante avec les dates de ses voyages, parce que je pense que ça a été l'un des sujets très importants des discussions.
Avec le Liban, Anthony Samrani, vous disiez tout à l'heure que les relations étaient compliquées. Pourtant, Damas a semblé rompre avec ce qu'on appelait l'axe de la résistance, hein, Téhéran, Damas, Beyrouth. Et malgré ça, la méfiance demeure entre les deux pays voisins.
Oui, elles sont compliquées pour plusieurs raisons, parce que effectivement, Damas a rompu complètement avec l'axe de la résistance, mais l'axe de la résistance existe toujours, même si de façon très affaiblie au Liban. Donc, il y a toute la dimension Hezbollah qui complique les relations, puisque le nouveau pouvoir syrien exècre, déteste le Hezbollah et le Hezbollah le lui rend très bien. Ensuite, il y a l'histoire. Hein, on ne peut pas tourner une page d'histoire comme ça facilement. Il y a des décennies de relations et de méfiance et d'idées du côté des Libanais que les Syriens et tous les Syriens, quelle que soit leur affiliation politique, voient le Liban comme un prolongement naturel, comme un pays artificiel qui en fait leur appartiendrait.
Hala Khodmani, comment la Syrie peut-elle reconstruire ses relations diplomatiques avec les pays occidentaux? La France s'est montrée assez réactive puisqu'elle a envoyé à Damas dès le 3 janvier Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, accompagné de son homologue allemande Annalena Baerbock. C'était prématuré ou pas?
Non, je crois que avant ça, il y a eu plusieurs bons signaux envoyés. Je crois qu'il y a un côté européen aujourd'hui, par exemple, l'ambassade d'Allemagne a été
rouverte jeudi.
La ministre des Affaires étrangères est sur place, a rouvert à Damas. Je crois qu'il y a eu une réelle volonté, je dirais un désir européen, notamment de la part de la France et de l'Allemagne. On le sent très bien. De voir la Syrie se refaire, réexister, tout en étant tout à fait réaliste. Non, il y a quand même beaucoup d'encouragement. On veut encourager ce pouvoir, mais évidemment à certaines conditions, et on voudrait le conforter. Et il y a beaucoup de signaux, il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup même de gestes. Là, je crois qu'il y a une délégation française de coopération qui s'est rendue sur place. Enfin bon, il y a cette volonté, mais ça n'empêche pas les craintes. Est-ce qu'ils peuvent faire plus? On voit combien tous les Européens sont, combien on est malheureusement dépendant des États-Unis partout. Les sanctions européennes ont été levées sur les secteurs essentiels qui sont les financiers, l'énergie et les transports. Eh bien, ça ne sert à rien.
Parce que du côté
tant que
américain,
les sanctions américaines contre les secteurs financiers et de transport, etc., ne sont pas levées, ça ne bougera pas. Aucun dollar ne peut rentrer dans un compte syrien, enfin dans un compte d'une banque syrienne.
Brièvement, à tous les trois, en un mot, est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur la poursuite de la transition, sur l'édification d'une Syrie unie et pacifiée, ou est-ce que le spectre de la guerre civile plane toujours sur le pays, selon vous, Anthony Samrani?
Moi, brièvement, je suis assez pessimiste en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a trois possibilités seulement qui pourraient permettre à cette transition et à ce pouvoir de survivre. La première, c'est des milliards qui afflueraient et on ne voit pas, comme Hala vient de le rappeler, d'où et comment. La deuxième, c'est un accord de paix avec Israël, avec toutes les problématiques que ça pose. Et la troisième, ce serait une forme de protectorat turc, sachant que ni le nouveau pouvoir syrien, ni les Kurdes et ni Israël n'en veulent aujourd'hui.
Ariad Ranem.
Assez pessimiste aussi de cette situation d'isolement, du peu de ressources économiques entre les mains de l'État aujourd'hui, du peu d'inclusion, des violences et de cet enjeu énorme de la présence des armes et de factions d'un côté et de l'autre. Donc c'est assez difficile de se projeter aujourd'hui. Il y a quand même de très gros sujets à mettre sur la table, mais l'envie bien sûr de rester dans une forme d'espoir stratégique, me disait un militant sur le terrain, il y a un enjeu stratégique à rester dans, voilà, essayer de rester constructif malgré tout.
Hala Khodmani.
Oui, c'est une très bonne formule, l'espoir stratégique. Moi, je suis pas la seule. Hein. Je crois que beaucoup de Syriens sont très conscients que on est face à un moment, une chance historique quand même, d'avoir terminé avec le régime Assad. Et si cette formule ne réussit pas aujourd'hui, c'est une telle catastrophe. Parce que c'est pas juste une petite guerre civile, hein, c'est vraiment des guerres civiles. Ça peut partir dans tous les sens, un chaos généralisé. Et je crois que personne n'y a intérêt, ni les Syriens, ni aucun pays de la région, ni aucun pays au monde. Donc je veux croire quand même que là, il faut que ça marche.
Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de Géopolitique. Hala Khodmani, grand reporter au journal Libération. Ariad Ranem, chercheur, docteur en relations internationales et enseignant à Sciences Po Paris. Anthony Samrani, co-rédacteur en chef du quotidien libanais L'Orient le Jour. Merci à David Brocouet qui a réalisé l'émission et à Cécile Lavolo qui l'a coordonnée. La semaine prochaine, c'est Marie-France Chatin que vous retrouverez à ce micro. À bientôt et portez-vous bien.